Hello again. To reiterate,
previous
warning, 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 warning.
Bienvenue, welcome and welcome. Pour cette première escale, on met à pied à terre en ce dimanche matin et on revient tranquillement sur des jeux, de bons jeux. Des jeux qui nous ont intéressés mais qui ne sont pas forcément très connus. Et pour cette occasion, je reçois un invité occasionnel des podcasts Bas Gauche Droite, Raph. Salut Raph.
Salut. Bonjour tout le monde.
Tu viens nous parler, on va évoquer un jeu qui t'a plu, en tout cas quand tu l'as fait à l'époque, il y a quelques années je pense.
Oui, il y a un certain temps.
Ouais. Voilà, donc ça peut expliquer pourquoi peut-être tu ne te souviendras pas de tout, mais on est dans ce but-là de toute façon, puisque je vais te présenter, je vous explique un peu la situation dans laquelle on est là. Donc on parle et j'ai devant moi un écran avec différentes captures d'écran qui vont nous permettre de revenir sur le titre et ton expérience passée et comment est-ce que tu l'as vécu, puisque c'est un titre en l'occurrence que tu as aimé, hein. C'est pour ça qu'on a choisi ce jeu là
oui, c'est un titre qui m'avait même plutôt marqué parce que c'était un titre qui était relativement peu connu mais qui a vraiment l'air d'être de bonne qualité quand on le lance, qui a de très beaux graphismes, qui a un gameplay intéressant, peut-être un petit peu bizarre, mais qui est plutôt, plutôt sympa.
On va y revenir. Ouais. Donc le titre, vous l'avez lu normalement en haut de la description, ou en tout cas quand vous avez téléchargé soit le podcast, soit la version vidéo. Ce jeu-là, c'est Pulseman, ou Pulseman, comme vous préférez. Alors on parle d'un jeu de Game Freak,
qui a fait Pokémon.
Voilà. Pokémon. Alors Pokémon vert, rouge et bleu. En l'occurrence, c'est vert et rouge au Japon, puisqu'on parle de la version japonaise. À l'époque, c'était février 96 au Japon. Et Pulseman, lui, c'est 2 ans avant. Donc Pokémon n'existe pas encore. Là, ils viennent, ils ont lancé donc ce jeu-là sur quelle console a priori ? C'est sur
Mega Drive. Voilà, qui devait être leur plateforme préférée à l'époque, puisqu'ils avaient déjà sorti, il me semble, un autre jeu sur Mega Drive.
Bah justement, on peut voir le parallèle avec la situation d'aujourd'hui, parce que Game Freak et Sega, puisque là en l'occurrence c'est une collaboration Game Freak et Sega,
voilà,
ça fait un peu penser
Tembo l'éléphant badass.
Voilà, ouais. C'est ça, complètement. Ça fait un peu penser à cette situation-là. C'est un titre, t'en parlais, qui n'était pas très très connu parce que ce jeu-là n'est pas sorti du Japon. Du moins, il est sorti du Japon le 22 juillet 1994. Et en fait, il est sorti aux États-Unis, mais seulement sur le Sega Channel.
Ah oui.
En exclusivité sur le Sega Channel. Vive l'exclu, voilà. C'est
la petite cartouche reliée à Internet.
Qui était en général dans les hôtels pour pouvoir jouer à certains jeux. Enfin, pas forcément dans les hôtels, mais en tout cas, elle était souvent présentée dans les hôtels pour pouvoir récupérer des jeux Mega Drive. Enfin, c'était avec le câble.
Oui, bah le truc qu'on ne voyait que dans les magazines en France.
Oui, c'est ça. Nous, chez nous, on n'y a pas droit. Donc, c'est un jeu finalement qu'on n'a pas pu toucher pendant longtemps. Et c'est comme ça, moi, je pensais que tu y avais joué, parce qu'enfin, comme ça, je parle de ce que je vais dire dans quelques instants, puisqu'en fait, il est sorti sur console virtuelle de la Wii en juillet 2009, donc chez nous, en Europe, et aussi en Amérique du Nord.
Sûrement pour les Hanami, ou Hanabi, je sais plus, les festivals qu'ils organisaient de jeux importés, un peu, comme Sin and Punishment.
Exactement, dans le 4e Hanabi Festival, il y avait deux jeux, lui et Agro Battle, donc il avait été un petit peu éclipsé. Mais il était sorti dans une version identique à l'import. Donc on va peut-être commencer un peu à parler du jeu et un peu parler de son ADN, puisque l'ADN en tout cas fait partie de cet esprit de ce jeu-là. Là, devant l'écran, on a une capture d'écran avec un scientifique a priori qui a plusieurs écrans devant lui aussi. Hein,
ouais,
voilà, on a une mise en abîme. Et on a une jeune femme. Alors, je ne sais pas si tu avais pu suivre le scénario à l'époque.
Non, parce que j'avais joué à un import japonais, donc voilà. Je n'avais rien compris du tout.
Alors moi, qui n'ai pas pu toucher le jeu, hein, j'ai essayé de me renseigner un peu autour du titre. J'ai juste commencé le début pour le premier niveau pour un peu voir comment ça fonctionnait. A priori, donc, le professeur a créé une intelligence artificielle, donc la demoiselle qui est dans l'écran. Mmh. Il tombe amoureux de cette intelligence artificielle à qui il a donné la capacité d'aimer. Pour s'approcher d'elle, il va se transférer dans l'ordinateur.
D'accord.
Et avec elle, ils vont faire un enfant. Donc, mi-ADN, mi-intelligence artificielle. Et cet enfant, c'est Pulseman.
Pulseman. Oh.
Exactement.
Mais alors, du coup, est-ce que c'est son père, le dernier boss ?
Exactement, puisqu'en fait, lui, à force de rester dans l'ordinateur, il va devenir un peu fou. Il va réussir à ressortir dans le monde réel. Et donc, il va devenir plus ou moins le méchant du jeu, le bad guy. Et donc, voilà, il va créer, alors comment ils appellent ça ? Des cyberterroristes, le Galaxy Gang. Voilà, toute une histoire autour de...
Ouais, mais bon... Le Galaxy, tout ça, on va quand même le parler avec Pokémon. Ça ressemble beaucoup au nom des teams de méchants.
Complètement, parce qu'on pense même que la référence est de là, parce qu'en japonais, donc Galaxy Gang, le nom, ça pouvait se traduire, enfin le nom japonais de Galaxy Gang, des Pokémon, hein, parce qu'il y a dans la quatrième génération, c'est Diamant Perle. Donc on a ce groupe, en général, les ennemis, hein, la Team Rocket et les différents gangs qu'on a au fur et à mesure. Enfin les différents.
Oui, je crois qu'il y a la
réseaux.
Team Galaxy.
On a la Team Galaxy. Donc chez nous ça a été traduit Team Galaxy, mais on pouvait traduire ça, Galaxy Gang, voilà, exactement comme ça. Alors une fois qu'on a on a ce Pulseman qui existe, qui est là, qui a un look assez rétro mais assez stylé, je trouve.
Ah oui, très très stylé, moi je trouve. Et pas si rétro, je trouve qu'il ressemble pas mal au héros que Level 5 ferait aujourd'hui. Bon, il a l'air quand même pas mal influencé par Astro Boy.
Ouais, et un petit air. Mais enfin, il faut quand même beaucoup penser à un mix de Zero, enfin Mega Man.
Ouais, c'est vrai, il ressemble pas mal à Zero. Ouais. Il lui manque juste les cheveux longs.
Ouais. D'ailleurs, enfin, il porte le nom de Pulseman parce que on peut le voir sur on a une espèce d'arc électrique.
Ouais.
Donc c'est assez spécial. Et à sa main gauche, enfin sur son bras gauche, il a une montre. Il va lui servir en tout cas pendant les niveaux, puisque en fait c'est l'espèce de compteur qu'on a en haut à gauche.
Oui, le compteur de vie, puis c'est aussi son support, hein, qui lui parle avec sa montre.
Ouais. Justement, je crois que c'est
l'écran de sélection des
niveaux. On peut voir l'écran de sélection des niveaux. Qui est finalement, on peut. Enfin, la sélection des niveaux nous fait voyager dans le monde entier, hein, puisque là. On voit Thaïlande, mais normalement, le départ, le premier niveau, c'est au Japon.
Au Japon, il semble,
ouais, c'est ça. Et on arrive donc dans ces niveaux, qui sont donc en scrolling, en 2D.
Ouais. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des niveaux qui sont dans le monde réel et des niveaux qui sont dans l'ordinateur. Et nous, les niveaux dans l'ordinateur sont quand même très...
psychédéliques,
un
petit peu barrés.
Ils font un peu mal aux yeux de temps en temps.
C'est ça, bah, c'est ce que je te disais. En plus, j'avais vu que ces images-là. Et quand tu m'as dit « Ouais, Pulseman, moi, ça m'a plu », j'ai fait « Mais c'est bizarre, moi, j'avais vu que ces images-là, je me suis dit « Mais je sais pas, on dirait un Megaman, mais sans les détails dans les graphismes. » Enfin voilà, on voit des gros carrés bleus, rouges, verts. C'est assez spécial quand même. Hein.
Bah là, c'est quand même pas le meilleur niveau... pour le rendu visuel. Il me semble que dans celui-là, il y a pas mal de passages secrets, il y a des trucs à casser, etc. Donc c'est un peu fait exprès que ce soit assez simple. Mais les autres niveaux à l'intérieur de l'ordinateur, ils sont quand même un peu plus détaillés et ils ressemblent plus à des niveaux dans le casino, un peu comme Casino Night de Sonic 2, où il y a beaucoup de lumière. Sauf que là, les lumières, elles sont beaucoup plus flashy. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais il y a une certaine logique quand même, parce que ces niveaux-là, là, comme on voit ici, ce sont des espèces de circuits imprimés. Enfin, voilà.
Ouais,
on a plein de choses qui nous rappellent l'électronique. C'est très cliché, mais en tout cas, c'est la volonté qu'ils avaient dans ces niveaux-là. Après, on a des niveaux plus classiques, hein, tu le disais, avec le casino, tout ça. Là, on a un niveau un peu dans le désert. Le premier niveau, on le disait, c'est au Japon. Enfin, voilà.
Oui, ça fait plus États-Unis, mais on y joue. Mais c'est dans des bâtiments, tout ça. Donc, c'est. C'est plutôt classique, ouais.
Alors en tout, il y a 7 environnements différents, et a priori, il y a 50 niveaux en tout, donc c'est plutôt pas mal.
Oui, parce que les niveaux sont divisés en actes, mais pas à la façon de Sonic. Quand on passe d'un acte à un autre, on passe souvent d'un décor complètement différent à un autre. À cause du passage dans l'ordinateur, généralement, puisque Pulseman peut rentrer et sortir dans les ordinateurs, mais du coup, ça fait beaucoup de variété.
On peut voir que le Pulseman est quand même un personnage qui a énormément de mouvements, de panoplies différentes, parce que autant un Sonic finalement, autant que dans les premiers Sonic en tout cas, tous les boutons servent à sauter, quoi. Il y a très peu de variété, à part se mettre en Super Bowl, tu peux pas faire grand chose. Pulseman, il a vraiment une variété de mouvements qui est assez importante.
Ouais, bah il a pas mal de mouvements qui sont repris dans Pokémon plus tard. Il a les tacles, il se transforme en
Pikachu,
boule
là,
aussi.
Ouais.
Il peut charger l'électricité pour frapper devant lui, il peut tirer, il peut sauter. Je pense qu'il a un coup de pied taclé, tout ça.
C'est ça, coup de pied, coup de poing. Donc il peut sauter, il peut faire. C'est ce que je te parlais. Il a une espèce de coup de pied retourné à la Guile, qui est assez spécial. Et j'avais lu certaines personnes qui critiquaient ce coup-là. Et je suis tombé sur un espèce de speedrun où il fait que sauter avec son coup de pied retourné. Il bat le boss en quelques secondes. Donc je pense que c'est l'efficacité peut être intéressante.
Bah, comme il y a pas mal de niveaux qui sont sur la verticalité, il y a des moments où il me semble que c'est assez utile, rien que pour casser des blocs en l'air et ensuite utiliser son mouvement principal qui est la transformation en boule électrique pour ensuite monter.
Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que les niveaux sont faits de façon à, à avoir des hauteurs, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on va devoir accéder en se mettant en espèce de boule en hauteur, rebondir sur les murs, hein, c'est ça ?
Ouais. Dans les niveaux, dans l'informatique, je trouve que c'est plus utilisé parce qu'il y a souvent beaucoup de pics et beaucoup de pièges. Et quand on est dans cette forme-là, en fait, on ne peut pas mourir. On ne fait que rebondir sur les trucs, sur les obstacles. Donc, il faut essayer de réfléchir. Là, je ne peux pas bouger. Peut-être que je peux passer comme ça. Mais il faut du coup trouver un moyen de charger l'électricité parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps.
C'est une barre qui va...
Alors en général l'électricité c'est tout simple, il suffit d'attendre et puis ça charge tout seul. Sinon il me semble qu'il y a des moments où il faut courir pour charger.
Ouais, je crois que c'est ce que je recommande en fait finalement, et ça paraît logique, c'est d'emmagasiner l'énergie en bougeant. C'est une pile d'énergie quoi qui va...
C'est d'ailleurs un jeu, c'est un peu un mélange de Sonic et Mega Man. Et le truc c'est quand tu cours, au début tu cours à une vitesse normale et dès que tu as chargé ton énergie, tu cours beaucoup plus vite.
Ouais. D'ailleurs, il y a une espèce de dash en avant qui permet d'éviter certains obstacles, qui sur quelques mètres en tout cas, qui fait un espèce de déplacement. Et tu parlais justement du gameplay. Quand on voit le jeu, c'est vrai que ça fait penser, graphiquement, ça faisait un peu penser à Sonic. Et ici, il y a aussi beaucoup de Mega Man. C'est vrai. En tout cas, c'est un vrai mélange des deux, quoi. C'est peut-être ça qui t'a plu, enfin justement. Ouais.
Oui, parce que moi j'aime bien les deux. Ouais. J'aime beaucoup Zero d'ailleurs, toute la série des Mega Man Zero. Et le côté Sonic aussi, avec le level design qui fait un peu, enfin le level design, les graphismes qui font un peu penser, et puis le fait que le jeu est quand même pensé pour le speedrun ou pensé pour la vitesse, avec une accélération qui est quand même assez bizarre vis-à-vis de celle de Sonic, puisque Sonic, on va dire qu'il a quasiment une accélération linéaire, alors que lui, à partir du moment où l'électricité est chargée, il y a une accélération soudaine, donc il est plus difficile à contrôler.
Ça peut être un peu plus difficile sur des phases plateformes qui peuvent être un peu exigeantes.
J'ai
l'impression qu'on est peut-être moins...
En général, sur les passages plateformes, il suffit de se transformer en boule électrique et passer par-dessus. Moi, je faisais comme ça en tout cas.
Il y a des phases d'ailleurs en phase de boule électrique où tu peux te mettre sur des lignes un petit peu. Tu dois choisir des chemins.
Je ne sais plus dans quel autre jeu il y avait ça à peu près, mais dans Mickey et Donald,
Oui, mais il était très bien, Mickey et Donald.
Il était très bien, oui. Du coup, tu dois changer de ligne, mais bon.
C'est pas les phases forcément les plus intéressantes.
C'est pas celles qui m'ont le plus marqué.
Par contre, on va arriver au boss justement. Dans une des images que j'ai vues, on voit le boss le grand méchant dans un des boss. Est-ce que c'est comme Dr. Robotnik ? Alors, est-ce qu'il vient, il arrive, il fait toujours, c'est toujours lui ou pas en fait ?
Il me semble que oui. Il me semble qu'on le voit assez régulièrement. Là sur la photo quand même.
En tout cas, il a pas des animaux et qu'il est emprisonné.
Non.
Hein.
Là non.
Parce que les premiers ennemis que j'ai vus c'est une espèce de petit lapin robot. Alors je me suis dit oula, mais qu'est-ce qui se passe quand même.
Non, là il y a pas d'animaux qui sortent quand on tue les ennemis. Là quand même on a quand même l'impression d'être dans Sonic 2.
Complètement, on est dans le casino, on a le boss qui est là. C'est vrai qu'on c'est assez proche.
Après moi ça me faisait aussi pas mal penser à Gunstar Heroes où on retrouve aussi souvent les quelques mêmes méchants qui reviennent et ce côté beaucoup de boss, beaucoup de niveaux différents.
Ils ont pas l'air très difficiles les boss quand même. Je sais pas s'ils t'ont laissé un souvenir impérissable mais...
Non pas trop, non. Je me souviens pas.
Après au niveau de la vue tu trouves pas que c'est un peu rapproché ? Alors c'est un petit peu l'impression que j'ai eue mais peut-être que ça gêne pas du tout en jeu.
C'est vrai que les sprites sont un peu gros mais ça participe au côté un peu classe ou un peu... mettre plein la vue quoi. Mais sinon ça gêne pas
parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'exploration, il y a parfois des bonus un peu partout.
Ouais, ça c'est un peu bizarre en tout cas dans les premiers niveaux qui sont des niveaux où il y a énormément de passages. C'est pas un level design où t'as vraiment envie de visiter finalement parce que tu tombes un peu aléatoirement, les chemins sont pas il y a pas d'embranchement logique entre les chemins. Des fois tu fais là, tu te transformes en électricité, tu arrives sur un truc tout en haut et il y a un chemin. c'est assez difficile de deviner que tu peux aller jusque-là, en fait. C'est plus c'est plus sa récompense un peu si tu vas n'importe où, mais c'est pas vraiment un truc qui pousse à l'exploration que j'avais trouvé.
En tout cas, il y a le même genre des passages dans des murs invisibles que tu traverses, un peu comme Sonic. Il y a plein d'autres jeux, un peu, évidemment, comme Mario, comme Yoshi. Et des zones un peu plus élevées à passer, là encore, accéder en utilisant sa petite boule d'énergie, quoi. Également, on n'en a pas parlé, mais l'histoire, du coup, t'en as pas forcément hyper eu besoin, mais il y a pas mal de scènes entre...
Il y a beaucoup de blabla.
Et ce qui est marquant, et c'est ce que j'ai découvert finalement, c'est que toutes ces voix-là, et notamment celle d'une espèce de speakerine, de journaliste du 20h, la Claire Chazal des temps modernes, parle avec une voix digitalisée en anglais, alors que c'est la version japonaise, elle parle en anglais. Et on la comprend, presque.
Oui, mais presque, parce qu'elle est digitalisée sur Mega Drive.
C'est ça.
Donc, il y a beaucoup de voix digitalisées, d'ailleurs, il me semble, dans les menus, quand tu récupères un bonus ou des trucs comme ça.
T'as une petite IA dans ta montre, et la jeune femme te parle parfois.
Mais ça fait un assez trésor, d'ailleurs. Trésor. Justement sur des jeux comme Gunstar Heroes, tout ça. Le style graphique ressemble d'ailleurs beaucoup à celui du jeu Nintendo 64 Dreamcast avec des robots.
Bangayo.
Voilà, Bangayo. C'est un peu les mêmes styles. Bon, là on reconnaît quand même que c'est la patte du mec qui dessine les Pokémon.
C'est ça.
Parce que bon, les méchants ont la même tête. Mais bon, ouais, c'est pour ça, ça se reproche pas mal.
Après, niveau difficulté, peut-être il y a.
Dur, très dur.
Des souvenirs là-dessus.
Je pense pas l'avoir fini. Je pense avoir déjà vu le dernier boss, puisque tu m'as montré une photo, il me semble, ça me rappelait quelque chose. Mais.
Je sais pas si ce niveau te dit quelque chose, c'est peut-être le dernier boss.
Si, je suis arrivé à ce niveau-là et c'est quand même assez sympa.
C'est vraiment classe. On voit le boss au premier plan, c'est ça?
Oui. Un peu comme dans le Sonic sur arcade. Où tu vois Robotnik qui appuie sur les boutons pendant que tu joues, seulement dans les derniers niveaux.
Ouais.
Mais oui, ça c'est quand même assez sympa. Tu vois ton personnage en train de bouger en bas de l'écran et tu avances comme ça.
Avec lui qui est vraiment au premier plan et les éléments derrière, c'est typiquement le genre de choses avec l'effet 3D, profondeur de la 3DS qui pourrait être vachement bien.
Qui pourrait être vachement sympa.
Parce que là, il y a beaucoup de petits 3D Sega classiques. Là, on parle de Game Freak. Donc derrière, il y a peut-être moyen d'avoir un Pulse Man en 3D Sega classique.
Bah oui, en plus, ça pourrait vachement importé sur les niveaux où il y a plusieurs plans qui étaient cachés à l'époque et qui étaient sympas à découvrir par soi-même, mais ça pourrait être amusant peut-être d'avoir cet effet de profondeur pour ça simplifierait le gameplay, mais pour les gens qui ont joué à l'époque, je pense que ça serait une belle addition, quoi.
Dans le genre de choses aussi qu'on n'a pas parlé encore, mais il y a les bonus stages qui ponctuent les niveaux. Alors je sais pas si c'est tout le temps, s'il y a un moyen de les obtenir comme un peu Sonic où on rentrait dans un portail, ou c'est comme Sonic 1 où c'était la fin entre certains niveaux.
Il me semble que dans Sonic 1 c'était quand même un peu au mérite puisqu'il fallait récupérer les anneaux, tout ça. Là il me semble que c'est automatique. J'ai pas de souvenir de trucs spécial pour obtenir le spécial stage. Souvent du coup des spécial stages un peu à la Breakout, mais...
En tout cas, c'est vraiment du casse-brique, hein, vrai. On est complètement dans cet esprit-là, quoi. Les musiques, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais c'est le... on en a parlé juste avant.
C'est le premier truc auquel on fait attention quand on aime bien Pokémon et qu'on lance le jeu, parce que la musique du premier niveau,
alors,
en fait...
On vous laisse écouter ça. C'est pas Pokémon.
Je sais pas si c'est pas le thème de la Team Galaxy, mais je suis pas sûr. Mais c'est un thème de combat qui a été repris quasiment tel quel dans un des Pokémon récents.
Complètement. Et en fait, c'est le même compositeur. Hein, c'est Junichi Masuda qui a donc composé les thèmes des Pokémon qui sont aussi connus, notamment les thèmes de combat et de bataille et tout le reste. Hein. Et effectivement, c'est assez proche. Surtout sur le premier niveau. Ensuite, c'est moins.
C'est le seul vraiment qui a été repris quasiment tel quel. Après, on on reconnaît des sonorités, mais pas à ce point-là. Là, c'est quasiment la même mélodie.
C'est un style qu'on retrouve chez lui, quoi, qui passe vraiment bien. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton expérience passée sur le titre, sur ce qu'on a vu, puisque c'est un titre que t'as beaucoup apprécié, donc
C'est un des rares titres dont je me souviens pas mal, quoi, parce que bon, en dehors de Sonic, tout ça que j'ai fait quand j'étais petit, celui-là je l'ai fait quand même assez tard, on va dire, les titres auxquels j'ai joué à cette époque-là, je m'en souviens pas tous, et celui-là quand même il m'avait pas mal marqué. J'avais vraiment trouvé ça vachement intéressant, rien que le côté action RPG fait par Game Freaks. J'avais du coup acheté assez vite leur jeu sur Game Boy.
Alors tu penses auquel ?
Le Drill Dozer.
Ah oui.
Mais qui est un peu dans le même style.
Qui est beaucoup mieux. Tu préfères Drill Dozer ?
Ah ouais, je préfère Drill Dozer. Ok. Ouais. Parce que la difficulté est mieux dosée, tout ça, même s'il est peut-être un peu trop facile, Drill Dozer.
Il est aussi plus connu.
Ah, je sais pas.
Ouais, parce que je pense qu'il est sorti chez nous, Drill Dozer.
Je crois que j'ai une version américaine, moi.
Ah, bah, en tout cas, il est une version plus proche de chez nous, on va dire.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, il n'y a pas de zonage sur la Game Boy, donc oui. On peut l'importer. Non, celui-là, oui, bon. Peut-être aussi le côté difficile pour y jouer, ça a dû rentrer en compte, mais non, il a un héros quand même qui est vachement charismatique, qui est assez original, parce que la transformation en boule comme ça, bon, il y a peut-être Rocket Knight qui a un truc assez proche.
Ouais,
mais
il y a des idées avec Rocket Knight.
Le dernier boss aussi fait quand même un peu Rocket Knight aussi, si c'est bien le dernier boss auquel je pense. Mais bon, voilà, toutes les capacités du héros, le côté très... Bah, très graphique quand même. Hein.
Ouais.
Là, ils essaient vraiment d'en mettre plein la vue.
Il y avait des effets de déformation, il y a pas mal d'effets différents qui sont utilisés pour... il y a une espèce de mode 7, il y a des équivalents, il y a des choses qui sont un peu particulières, qui rentrent peut-être pas tous bien, parce que moi, les niveaux que j'ai vus qui étaient un peu des psychédéliques, ils sont un peu barjots, là, mais c'est vrai qu'il y a des idées, quoi. Il y a des choses un peu différentes de ce qu'on peut voir habituellement. Et les niveaux plus classiques sont, eux, très réussis avec le scrolling parallaxe.
Ah oui, ouais, franchement, là-dessus, ça passe vachement bien. Après, voilà, les petits regrets, c'est sur... peut-être une sous-utilisation de la plateforme, ou alors le fait que la balle électrique, c'est un peu aléatoire de temps en temps. Mais
on n'est pas sur une précision comme certains titres,
oui.
Mais c'est quand même un titre plaisant pour plein d'autres raisons, quoi.
Oui. Un titre qui est quand même vachement sympa à découvrir, quoi.
Ok, je te remercie du coup pour m'avoir présenté ce titre-là que je ne connaissais pas.
Et bah de rien.
Nous, on se retrouve dans tout pile un mois pour un autre jeu, même endroit, même lieu, même heure. Et d'ici là, jouer, puisque le jeu vidéo est encore le meilleur moyen de voyager.